Chapitre 7. Question. On a couvert pas mal de terrain maintenant. Dis donc, pouvons-nous faire un autre changement? Es-tu prêt à continuer? Réponse. L'es-tu? Question. Oui, j'ai à nouveau le vent en poupe. J'ai enfin pris un rythme de croisière. Et je veux te poser toutes les questions que j'accumule depuis 3 ans. Réponse. Ça me va. Vas-y. Question. Super. J'aimerais maintenant qu'on aborde un autre mystère ésotérique, celui de la réincarnation. Voudrais-tu m'en parler? Réponse. Bien sûr. Question. D'après bien des religions, la réincarnation est une fausse doctrine. Nous n'avons qu'une vie ici-bas, qu'une seule chance. Réponse. Je sais, ce n'est pas exact. Question. Comment peuvent-elles se tromper ainsi sur une question aussi importante? Comment ne peuvent-elles pas connaître la vérité à propos d'un principe aussi fondamental? Réponse. Tu dois comprendre que les humains ont de nombreuses religions fondées sur la peur et que leurs enseignements fondent leur doctrine autour d'un Dieu qu'il faut à la fois adorer et craindre. C'est par le biais de la peur que votre société terrestre s'est réformée du matriarcat au patriarcat. C'est en utilisant la peur que les premiers prêtres ont amené les gens à corriger leurs mœurs dépravées et à entendre la parole du Seigneur. C'est par la peur que les églises ont rassemblé et contrôlé leurs membres. L'une de ces églises insistait même pour que Dieu te punisse si tu n'allais pas à l'église tous les dimanches, car c'était là un péché, disait-on. Et pas seulement à n'importe quelle église. Il fallait fréquenter une église en particulier. Si on allait à une église d'une confession différente, c'était là un autre péché. Une telle attitude de la part de l'église démontrait purement et simplement une tentative de contrôle par la peur. Le plus étonnant, c'est que ça marchait. Et merde, ça marche encore. Question. Dis donc, tu es Dieu, ne jure pas. Réponse. Qui a juré? Je faisais l'énoncé d'un fait. J'ai dit, merde, ça marche encore. Les gens croiront toujours à l'enfer et en un Dieu qui les enverra là, tout comme ils ont imaginé un Dieu semblable à un homme, cruel, égoïste, impitoyable et vengeur. Jadis, la plupart des gens ne pouvaient imaginer un Dieu s'élevant au-dessus de tout cela. Alors, ils ont accepté l'enseignement de bien des églises. Craignez la terrible vengeance du Seigneur. D'une certaine manière, les gens ne pouvaient se faire suffisamment confiance pour être bons, pour agir d'eux-mêmes de façon convenable, pour leurs propres raisons intrinsèques. Par conséquent, ils ont dû créer une religion qui enseignait la doctrine d'un Dieu courroucé et vengeur, afin de maintenir la discipline dans les rangs. Puis, l'idée de réincarnation a saboté tout cela. Question. Comment? Qu'est-ce qui rendait cette doctrine si menaçante? Réponse. L'Église proclamait qu'il valait mieux être gentil, sinon... Et c'est alors qu'arrivèrent les réincarnationnistes, en disant « Vous aurez une autre chance après, et une autre encore, et encore d'autres chances. Alors ne vous inquiétez pas, faites de votre mieux. Ne vous laissez pas paralyser par la peur au point de ne pas bouger. Promettez-vous de faire mieux, et mettez-vous au travail. » Naturellement, l'Église primitive ne pouvait se rallier à un tel discours et réagit de deux manières. D'abord, elle dénonça la doctrine de la réincarnation comme étant une hérésie. Puis, elle créa le sacrement de la confession, qui offrait aux fidèles ce que promettait la réincarnation, c'est-à-dire leur accorder une autre chance. Question. Ainsi, nous avions un contexte où Dieu pouvait nous punir pour nos péchés, à moins qu'on ne les confesse. Dans ce cas, on pouvait se sentir en sécurité, sachant que Dieu avait entendu notre confession et nous avait pardonné. Réponse. Oui, mais une attrape se cache derrière. Cette absolution ne pouvait venir directement de Dieu. Elle devait passer par l'Église, dont les prêtres donnaient des pénitences qu'il fallait accomplir. Habituellement, des prières étaient exigées du pécheur. On avait donc alors deux raisons de garder sa carte de membre. L'Église trouva que la confession représentait un si bon atout qu'elle déclara bientôt que c'était un péché de ne pas aller à la confesse. Chacun devait le faire au moins une fois par année, sinon Dieu aurait une autre raison d'être en colère. L'Église se mit à promulguer un nombre de plus en plus grand de règles. Plusieurs d'entre elles, arbitraires et capricieuses, chaque règle s'appuyant sur le pouvoir de condamnation éternelle de Dieu, à moins, bien entendu, qu'un manquement soit confessé. Ainsi, le pécheur recevait le pardon de Dieu et évitait la damnation. Mais survint alors un autre problème. Les gens se figurèrent qu'ils pouvaient faire n'importe quoi, pourvu qu'ils le confessent. L'Église se trouvait devant un dilemme. La peur avait quitté le cœur des gens. La fréquentation des églises et le nombre d'adhérents se mirent à diminuer. Les gens venaient à la confesse une fois par année, exécutaient leur pénitence, étaient absous de leurs péchés et leur vie continuait. Aucun doute, il fallait trouver un moyen d'enfoncer à nouveau la peur dans leur cœur. Alors, on inventa le purgatoire. Question : le purgatoire ? Réponse : le purgatoire. On le décrivait comme un endroit semblable à l'enfer, à une exception près. Il n'était pas éternel. Selon cette doctrine, Dieu allait vous faire souffrir pour vos péchés, même si vous les confessiez. En fait, une certaine somme de souffrance était décrétée par Dieu pour chaque âme imparfaite, d'après le nombre et le genre de péchés commis. Il y avait des péchés mortels et des péchés véniels. Les premiers vous envoyaient droit en enfer si vous ne les confessiez pas avant votre mort. Une fois de plus, la fréquentation des églises monta en flèche. Les collectes étaient en hausse, surtout les contributions, car la doctrine du purgatoire comprenait également un moyen d'acheter l'évitement de la souffrance. Question : pardon ? Réponse : selon les enseignements de l'Église, vous pouviez recevoir une indulgence particulière d'un fonctionnaire de l'Église, pas directement de Dieu. Ces indulgences très particulières vous libéraient de la souffrance du purgatoire que vous aviez méritée à cause de vos péchés, du moins en partie. Question : quelque chose comme un congé pour bonne conduite ? Réponse : oui. Mais bien entendu, ces sursis n'étaient accordés qu'à très peu de gens, en général à ceux qui offraient une contribution remarquable à l'Église. Pour une somme vraiment énorme, on pouvait obtenir une indulgence plénière. Cela signifiait qu'on ne passait aucun temps au purgatoire. C'était là un billet sans escale pour le ciel. Cette faveur spéciale de Dieu était offerte à un nombre encore plus restreint. La royauté, peut-être. Et les super riches. La quantité d'argent, de bijoux et de terres cédées à l'Église en échange de ces indulgences plénières était énorme. Mais l'exclusivité de tout cela suscita frustration et ressentiment parmi les masses. Le paysan le plus pauvre n'avait aucun espoir de gagner l'indulgence de l'évêque. Par conséquent, les masses perdirent la foi dans le système et la fréquentation menaça de baisser une fois de plus. Question : et alors, qu'ont-ils fait ? Réponse : ils ont instauré les chandelles de neuvaine. Les gens pouvaient se présenter à l'église et allumer une bougie pour les pauvres âmes du purgatoire. En récitant une neuvaine, une série de prières dans un ordre particulier qui nécessitait un certain temps avant d'être terminée, ils pouvaient effacer des années à la sentence des chers disparus, les tyrans du purgatoire plutôt que Dieu ne l'aurait permis autrement. Ils ne pouvaient rien faire pour eux-mêmes, mais au moins, ils pouvaient prier pour la pitié envers les disparus. Bien entendu, chaque cierge allumé sous-entendait qu'une pièce ou deux était glissée dans la fente tout près. Bien des petites bougies luisirent derrière leurs verres rouges, et bien des pesos et des sous tombèrent dans bien des boîtes en fer blanc, afin de m'amener à alléger la souffrance infligée aux âmes du purgatoire. Question : ouf, c'est incroyable. Tu veux dire que les gens ne pouvaient pas voir clair dans ce jeu ? Qu'ils ne voyaient pas cela comme une tentative désespérée d'une église désespérée, visant à garder ses membres assez désespérés pour faire n'importe quoi dans le but de se protéger de ce desperado qu'ils appelaient Dieu ? Tu veux dire que les gens ont vraiment cru cela ? Réponse : très précisément. Question : pas étonnant que l'église ait déclaré que la réincarnation était une fausseté ? Réponse : oui, mais quand je vous ai créé, je ne l'ai pas fait pour que vous puissiez vivre une seule vie, une période infinitésimale, compte tenu de l'âge de l'univers, et faire les erreurs que vous alliez inévitablement faire pour espérer le mieux à la fin. J'ai essayé d'imaginer d'établir les choses ainsi, mais je n'arrivais jamais à trouver dans quel dessein. Vous ne pouviez jamais le trouver non plus. Voilà pourquoi vous avez répété des phrases comme « Le Seigneur emprunte des voies mystérieuses pour accomplir ses merveilles ». Mais je n'emprunte pas des voies mystérieuses. Tout ce que je fais a une raison. Et elle est parfaitement claire. Bien des fois, au cours de cette trilogie, j'ai expliqué pourquoi je vous ai créé et quel était le dessein de votre vie. La réincarnation s'insère parfaitement dans ce dessein qui, pour moi, se résume à créer et à faire l'expérience de qui je suis par votre intermédiaire, vie après vie, et par l'intermédiaire des millions d'autres créatures de conscience que j'ai placées dans l'univers. Question : alors il y a vraiment de la vie sur d'autres ? Réponse : bien sûr qu'il y en a. Croyez-vous vraiment être seul dans cet univers gigantesque ? Mais c'est un autre sujet sur lequel nous reviendrons. Question : promis ? Réponse : promis. Ainsi, votre dessein en tant qu'âme est de faire l'expérience de vous-même en tant que tout cela. Nous sommes en évolution. Nous sommes en devenir. Devenir quoi? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons le savoir avant d'y arriver. Mais pour nous, le voyage est la joie. Et dès que nous y arrivons, dès que nous créons la prochaine idée la plus élevée de qui nous sommes, nous créons aussi une pensée plus vaste, une idée plus grande, et perpétuons la joie à jamais. Me suis-tu jusqu'ici? Question. Oui, oui. À ce stade-ci, je pourrais presque répéter cela mot à mot. Réponse. Bien. Alors, la raison d'être et le dessein de votre vie se résument à décider et à être qui vous êtes vraiment. Vous le faites chaque jour, à partir de chaque geste, de chaque pensée, de chaque parole. Dans la mesure où vous êtes satisfait de cela, de qui vous êtes selon votre expérience, dans cette mesure, vous vous en tiendrez plus ou moins à la création, en n'apportant que des ajustements mineurs ici et là, pour la rapprocher de plus en plus de la perfection. Paramahansa Yogananda est un exemple d'un être très proche de la perfection en tant que représentation de ce qu'il pensait de lui-même. Il avait une idée très claire de lui-même et de sa relation avec moi. Il a utilisé sa vie pour représenter cela. Il désirait faire l'expérience de l'idée qu'il se faisait de lui-même dans sa propre réalité, se connaître en tant que tel de façon expérientielle. Babe Ruth, grand joueur de baseball américain des années 30, a fait la même chose. Il se faisait une idée très claire de lui-même et de sa relation avec moi, et il a utilisé sa vie pour représenter cela, pour se connaître dans sa propre expérience. Peu de gens vivent à ce niveau. D'accord, le maître et Babe se faisaient des idées entièrement différentes d'eux-mêmes, mais ils les ont tous deux jouées de façon magnifique. De plus, ils se faisaient tous les deux des idées dissemblables sur moi, c'est sûr, et venaient de niveaux différents de conscience à propos de qui je suis et de leur véritable relation avec moi. Et ces niveaux de conscience se reflétaient dans leurs pensées, leurs paroles et leurs gestes. L'un passa presque toute sa vie dans un espace de paix et de sérénité et apporta une paix et une sérénité profonde aux autres. L'autre se trouvait dans un espace d'anxiété, d'agitation, de colère occasionnelle, surtout lorsqu'il ne pouvait arriver à ses fins, et apporta de l'agitation à la vie de ceux qui l'entouraient. Mais tous les deux avaient bon cœur. Personne n'eut jamais de toucher plus doux que Babe Ruth. Et la différence entre eux, c'est que l'un n'avait presque rien en matière d'acquisition matérielle, mais ne voulait jamais plus que ce qu'il possédait, tandis que l'autre avait tout et n'obtint jamais ce qu'il voulait vraiment. Si c'était la fin pour George Herman, son nom véritable, je suppose que nous pourrions tous nous sentir un peu tristes. Mais l'âme qui s'est incarnée en tant que Babe Ruth est loin d'en avoir terminé avec ce processus appelé évolution. Cet homme a eu une occasion de revoir les expériences qu'il a produites pour lui-même comme les expériences qu'il a produites pour les autres. Et à présent, il est sur le point de décider de ce dont il aimerait faire l'expérience ensuite, en cherchant à se créer et à se recréer dans des versions de plus en plus grandioses. Nous allons interrompre ici notre récit sur ces deux âmes, car elles ont toutes deux fait leur prochain choix concernant ce dont elles veulent faire l'expérience à présent. Et en fait, elles en font maintenant l'expérience.